entier et ego et mi. Moi qui suis fils de sacrificateur, je suis Moïse. Alors, pour vous, Grecs, ça ne doit pas vous dire grand-chose. Mais pour nous, Juifs, ça signifie beaucoup. Quel autre choix j'avais face à un tel blasphème? Les lois sont claires. C'est la lapidation. Alors bon, d'accord, il nous a échappé une fois de plus, mais on finira bien par l'avoir. Ego, emi, n'importe quoi. Ceci est un discours qui aurait pu être prononcé par l'un des chefs religieux à l'écoute de Jésus. Lisons ensemble ce que l'apôtre Jean nous rapporte dans son évangile. Je vous propose donc d'ouvrir vos Bibles dans l'évangile selon Jean. Je lirai au chapitre 8, du verset 52 au verset 59. Je lirai dans la version Tob, dans l'évangile selon Jean, au chapitre 8, et je lirai du verset 52 au verset 59. L'apôtre Jean nous parle de ceci. Les Juifs lui dirent alors, « Nous savons maintenant que tu es un possédé. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu viens dire, si quelqu'un garde ma parole, il ne fera jamais l'expérience de la mort. Serais-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Et les prophètes sont aussi morts. Pour qui te prends-tu donc ? » Jésus leur répondit, « Si je me glorifiais moi-même, ma gloire ne signifierait rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous affirmez qu'il est votre Dieu. Vous ne l'avez pas connu, tandis que moi, je le connais. Si je disais que je ne le connaissais pas, je serais, tout comme vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a exulté à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il a été transporté de joie. Sur quoi les Juifs lui dirent, tu n'as même pas 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors, ils ramassèrent des pierres pour les lancer contre lui, mais Jésus se déroba et sortit du temple. Je vous propose, dans un premier temps, de chercher à comprendre le contexte dans lequel se trouve Jésus quand il prononce ces paroles fortes. Puis, je vous propose de réfléchir au verset 58, en le scindant en deux, le passé et le présent, fut, puis je suis. Le contexte. Et parlons d'abord du livre, l'évangile selon l'apôtre Jean. Au fil des années, la tradition a attribué ce livre à l'apôtre Jean. Toutefois, il faut préciser que ce texte en grec est anonyme. C'est vers la deuxième ou troisième décennie après son écriture que nous l'avons attribué à cet apôtre. La question est importante à se poser, car il existait autour de Jésus plusieurs personnes du nom de Jean. Celui qui a été retenu est, selon moi, le choix le plus judicieux. L'apôtre Jean, que Jésus aimait particulièrement. Jean écrit cet évangile sans aucun doute pour les non-croyants, afin qu'ils croient en Jésus, Fils unique de Dieu, mort pour quiconque, afin que nous ayons, par la foi, la vie éternelle. Jean a probablement écrit ce texte entre la mort de l'apôtre Pierre, vers 64, et la destruction du temple de Jérusalem, vers 70. Cette conclusion n'est pas compliquée, car il parle de l'un et pas de l'autre. Dans l'histoire du salut, l'évangile de Jean est écrit à un croisement. Il est écrit au début de la fin, entre les temps passés et les temps à venir. La révélation complète de Dieu est encore toute nouvelle. Au moment de l'écriture, Jean est conscient de ce que nous avons appelé plus tard la Trinité. Il a eu le privilège de rencontrer Dieu le Père par la foi en Jésus et l'union en son esprit. Jean est un juif érudit, entouré d'autres juifs érudits, dans une société influencée par une grande diversité de croyances et d'opinions non chrétiennes et non juives. Parlons un peu de cet horizon auquel Jean et sans doute Jésus ont été confrontés. La Palestine est influencée par la culture grecque. Et la culture grecque de cette époque est une combinaison de trois grands courants principaux issus de trois fortes personnalités. Nous avons Philon, nous avons Hermès, le dieu grec, puis nous avons Platon. La population est influencée par le stoïcisme de Philon, avec pour argument principal tout ce qui est rationnel. La population est également influencée par le cosmos d'Hermès, dans lequel on peut voir un parallèle avec la vie chrétienne. Dans la nouvelle naissance, un changement de vie qui tend vers la divinité de la personne. Puis la population est aussi influencée par Platon, qui émet l'idée que tout dépend de la connaissance. C'est grâce à elle que nous obtenons la vie et la libération. En résumé, nous observons qu'il existe des parallèles clairs entre ces opinions hérétiques et la foi chrétienne. Jésus, Jean et tous les chrétiens de cette époque sont confrontés à ces courants. Il devait être difficile de parler de résurrection à un rationaliste, ou convaincre de la libération par la foi en Christ à un adepte de la connaissance. Et pourtant, le christianisme se développe rapidement dans cette société religieuse et hostile. C'est dans ce contexte que Jésus se présente comme étant « ego emi ». Je suis fils de Dieu qui n'a ni début ni fin. Imaginez la tête des adeptes de Philon. Il n'y a rien de rationnel dans cela. Imaginez aussi la tête des Juifs qui considéraient Abraham comme étant le pilier de leur foi. Ce passage que nous avons lu est un dialogue entre Jésus et des pharisiens, des chefs religieux juifs et sans doute une foule diverse et variée. Il affirme ici sa domination sur l'origine de la foi juive, sa domination sur Abraham, le père des Juifs, fondateur de la nation juive. Et il insiste sur son rapport intime avec Dieu le Père en tant que fils du divin. Alors, sans plus attendre, tout en gardant ce contexte en tête, abordons maintenant plus précisément le verset 58. Et commençons par le passé. Avant qu'Abraham fût. Dans ce verset, la conjugaison du verbe « être » est centrale. Et nous avons un parallélisme entre le verbe « être » conjugué au passé, puis au présent. Et parlons d'abord donc du passé, du temps d'Abraham. À ce temps-ci, Jésus était déjà « je suis ». Voici deux textes qui nous le prouvent. Dans le prologue de Jean, on lit « au commencement était la parole ». Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et puis, nous avons ce texte dans le livre de Michée, au chapitre 5. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers du Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Nous lisons clairement que Jésus est à l'origine de ce monde et de son histoire. Tandis que nous, et les pharisiens, n'avons qu'un aperçu de ce qui a été décidé et accompli au commencement de toute chose. Nous avons une perspective bien petite, bien faible, face à la perspective du Christ, qui est à l'origine de toute époque. Jésus se situe ainsi avant Abraham, qui, je le rappelle, est le premier du peuple juif. Pour les juifs, ainsi que pour nous, et certainement pour les musulmans, Abraham est une figure forte, car c'est par lui que Dieu a décidé de tout commencer. Il en fallait bien un premier. Et d'Abraham jusqu'aux Juifs du temps de Jésus, beaucoup d'années se sont écoulées, environ 2100 ans. Au fil des années, la religion juive s'est construite. L'arrière-plan, l'histoire, la tradition ont participé au blocage des chefs juifs. Quand Jésus se présente comme Fils de Dieu, ils sont incapables de voir la réalité. Ils nient tout en bloc et crient au blasphème. Sans nul doute, car ils sont dans l'incapacité d'avoir du recul sur ces nombreuses années. Incapables d'avoir du recul sur ces 2000 ans d'histoire, de construction. Les pharisiens de cette époque, et la Palestine à cette époque, étaient dominés par Rome. Et ces pharisiens étaient persuadés que le Christ serait un chef militaire qui les délivrerait du joug romain. À cause de leurs fausses convictions, ils n'ont pas eu assez de recul pour comprendre les paroles de Jésus quand il se présente comme étant Dieu. Lui qui n'est qu'un charpentier de Nazareth. Finalement, ils ont la réaction qu'ont beaucoup. Ils le considèrent comme un blasphémateur. Et si nous réfléchissons bien, rien n'a changé depuis. Nous continuons à être des gens butés, incapable d'avoir assez de recul pour comprendre l'ensemble de la réalité. Combien d'entre nous crient indirectement au blasphème au travers du rejet de Dieu ? Nous vivons dans un pays qui se cache derrière la laïcité, qui l'utilise pour ne pas avoir à prendre de position face aux réalités divines. Nous sommes convaincus que la laïcité et le rejet de Dieu est une bonne chose. Toutefois, gardons en tête que le Christ reviendra. Il se présentera à nous et nous aurons le devoir de le suivre. Christ est Dieu. Que nous l'acceptons ou pas, nous aurons beau crier au blasphème, cela ne changera rien. Nous aurons beau chercher à le fuir, il restera Dieu. En tant que tel, il bénéficie de tous les attributs de son Père. Son éternité lui a permis d'être acteur dans l'histoire du salut, et donc dans celle de l'humanité. C'est grâce à cela qu'il est beaucoup plus important qu'Abraham. Car Abraham fut, tandis que Jésus est. Abraham n'est qu'un témoin de l'œuvre de Dieu, tout comme nous sommes témoins, nous aussi, avec quelques décennies de distance, je vous l'accorde. Pour les chefs juifs de l'époque, c'était une notion toute nouvelle que Dieu est un fils. Le Christ, ici, explique qu'il est Dieu et qu'il vient de Dieu. Toutefois, il ne diminue pas l'existence de son Père. Le Père l'a engendré, mais il ne l'a pas créé, car Jésus est Dieu tout comme le Père l'est aussi. Dans ce passage, Jésus se présente, mais indirectement, il fait aussi autre chose. Indirectement, il se compare à nous. Car nous ne sommes pas « je suis », nous ne sommes pas Dieu. Alors j'ai une petite question. Est-ce que vous avez vu ces derniers jours l'interview de Zlatan Ibrahimovic? Non? Alors, Zlatan a été interviewé et il a fait comprendre à toute la France que le journaliste en face de lui était en train de poser des questions à Dieu en personne. Toutefois, il me semble que Zlatan est loin d'être « je suis ». Il n'est pas Dieu, comme nous le fait comprendre Jésus, lui qui l'a dit aux Juifs de son époque. Et il nous le dit à nous aujourd'hui. Avant que Zlatan fût, moi, je suis. Avant que Cyril, Mélissa, Benjamin, Eric, Émilie furent, moi, je suis. Avant que tout arrive, et on sait ce qui s'est passé, avant que tout arrive, notre Sauveur est. Alors, nous avons parlé du passé. Parlons maintenant du présent. Je suis. Très rapidement, nous pouvons lire dans la Bible ce « je suis ». C'est un terme qui fait allusion à la rencontre entre Dieu et Moïse à travers le buisson ardent. Juste avant que Moïse soit envoyé en Égypte pour sauver le peuple juif de l'esclavage. Lisons ce passage court dans Exode au chapitre 3. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles. Dans Exode, au chapitre 3. Et je lirai du verset 13 au verset 15. Nous lisons ceci. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Je suis et un des nombreux noms de Dieu. Et comme chacun des autres noms, celui-ci a beaucoup de signification. Je suis se réfère à l'être éternel. En hébreu, ayé, et en grec, émi. Mais que ce soit en grec ou en hébreu, ce mot est traduit en français au présent. C'est donc que le présent a beaucoup d'importance. Jésus aurait pu dire, avant qu'Abraham fût, moi, j'étais. Cela aurait pu signifier qu'il était né avant lui, ce qui n'est pas tout à fait correct, puisque Jésus n'a ni début ni fin en tant que Dieu, et qu'il est né après Abraham en tant qu'homme. Le devenir, la possibilité de changer au fil du temps, est réservé et n'appartient qu'à tout ce qui est créé. Tandis que l'être absolu, éternel, qui ne change pas, appartient à Dieu et à Dieu seul. Et c'est dans ce sens que Jésus se présente aux chefs religieux comme étant « Je suis ». La nation juive se revendique d'Abraham. Toutefois, au fil des années, la foi en Dieu a beaucoup changé. Et les Juifs de l'époque de Jésus ne peuvent se vanter d'avoir la même foi qu'Abraham, simple et dépendante. Comment Abraham aurait-il réagi à la vue du Christ? Nous le savons. Il aurait exulté de joie. Comment, 2000 ans plus tard, les pharisiens réagissent à l'égard du Messie? Ils prennent des pierres. De la première ou de la seconde réaction, laquelle souhaitons-nous adopter quand nous entendons une prédication? Que nous lisons un livre sur Jésus? Ou que on nous invite à une soirée à l'église? Laquelle de ces deux réactions voulons-nous adopter? J'aimerais maintenant repréciser une chose. Bien que Jésus se présente avec le « je suis » de son Père sous l'ancienne alliance, même s'il se conjugue au présent, car, je le répète, la divinité ne se conjugue ni au passé, ni au futur, mais toujours au présent. Jésus, ego emi, ne prend pas la place du Père, mais affirme sa nature divine et son autorité sur tous les Juifs et les non-Juifs de tout temps. Et j'appuie sur le fait qu'il est Dieu de tout temps. Car « je suis » signifie « j'ai toujours été ». Je n'ai ni début, ni fin. Et je serai toujours. Autrement dit, en se nommant « je suis », Jésus déclarait en fait « Je suis Dieu ». Avant qu'Abraham fût, « Je suis ». Ceci n'est pas une erreur grammaticale, ni une erreur de traduction. Mais cette phrase définit Abraham en tant que créature, et notre Seigneur en tant que créateur. Il était donc légitime que Jésus se dise plus grand qu'Abraham. Si, comme nous le présente le prologue, la parole, donc Jésus, était toujours avec Dieu, si elle était toujours Dieu, alors, en adorant Dieu par la foi, Abraham a adoré aussi celui qui allait devenir Jésus de Nazareth. Eh oui, Abraham a adoré aussi celui qui allait devenir Jésus de Nazareth. J'en viens à ma conclusion. À ce moment-ci, les Juifs comprennent clairement que Jésus se présente comme fils de Dieu. Dans leur incrédulité, ils prirent des pierres pour le lapider. Normal, c'est écrit dans les lois. Déclarer aussi clairement son égalité avec Dieu provoqua une crise. Ses ennemis furent obligés de prendre une décision à son égard. Était-il celui qu'il disait être, le Messie, ou bien un imposteur, un blasphémateur? Aujourd'hui, c'est la question que je vous pose. À vous, qui peut-être n'avez jamais entendu parler de Jésus en ces termes. Aujourd'hui encore, chaque être humain est confronté à la personne du Christ. Nous devons prendre une décision. Était-il un illuminé? Un blasphémateur qui se déclarait Dieu? Ou alors véritablement le Sauveur, le Fils de Dieu? À chacun de choisir en son âme et conscience. Si nous devons nous souvenir d'une chose de la prédication de ce matin, c'est ceci. Si quelqu'un garde ma parole, il ne fera jamais l'expérience de la mort. Oui, si quelqu'un garde ma parole, il ne fera jamais l'expérience de la mort. Car je suis, deviens par la foi, le sauveur de ceux qui furent. Les Juifs lui dirent « Nous savons maintenant que tu es un possédé. Abraham est mort. Et les prophètes aussi. Et toi, tu viens dire « Si quelqu'un garde ma parole, il ne fera jamais l'expérience de la mort. Serais-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort ? Et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu donc ?» Jésus leur répondit, « Si je me glorifiais moi-même, ma gloire ne signifierait rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous affirmez qu'il est votre Dieu. Vous ne l'avez pas connu, tandis que moi, je le connais. Si je disais que je ne le connaissais pas, je serais, tout comme vous, un menteur. » Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a exulté à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et en a été transporté de joie. Sur quoi les Juifs lui dirent, tu n'as même pas 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lancer contre lui. Mais Jésus se déroba et sortit du temple. Amen. J'invite maintenant les musiciens, si vous voulez bien reprendre place. Je vous invite à vous lever et je vous propose maintenant de chanter un cantique. À l'agneau sur le trône, notre roi des rois.